Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série très importante, en effet, qui concerne l'ascension du vainqueur et son triomphe. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 26 et le titre de notre étude de ce matin, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. C'est sérieux cela. Chers amis, le retour du Christ, ce retour est la bienheureuse espérance de l'Église. Tite, chapitre 2, verset 13. Comme vous le savez, je vais citer toutes les citations bibliques qui correspondent à l'étude. Cependant, s'il est lié au privilège céleste, cette bienheureuse espérance de l'Église, il est aussi à une sainte confrontation que la Sainte Bible appelle le tribunal de Christ. De même que l'enlèvement est un rafraîchissement pour le cœur, ce tribunal doit être un stimulant pour la conscience. À ce sujet, la Sainte Bible nous dévoile sept faits déterminés. Premièrement, le moment. Deuxièmement, le juge. Troisièmement, les personnes jugées. Quatrièmement, la sévérité du jugement. Cinquièmement, le critérium. Sixièmement, l'effet. Et septièmement, le but du jugement. Commençons donc par numéro 1. Premièrement, nous avons le moment. Ça, c'est le jour de Christ ou jour du Seigneur. Ceci est mentionné 6 fois dans le Nouveau Testament. Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, chapitre 5, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14, Philippiens chapitre 1 verset 6 et 10, chapitre 2 verset 16. En ce jour-là, c'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8 et chapitre 1 verset 12 de 2 Timothée, à sa venue, donc la parousia, 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, ce qui, d'après le témoignage de tout le Nouveau Testament, désigne le temps qui précède l'établissement du royaume visible ou royaume millénial. Nous devons donc distinguer le tribunal de Christ du grand trône blanc qui lui n'est dressé que après le royaume de gloire. Notez Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 20 verset 11. Deuxièmement, on a dit le juge. Christ est le Seigneur, c'est lui le juste juge. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Le Père a remis tout jugement au Fils. Saint Jean, chapitre 5, verset 22. Donc, le tribunal de Christ, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et donc, en même temps, ce tribunal de Christ, c'est le tribunal de Dieu. Romains, chapitre 14, verset 10. Troisièmement, nous avons les personnes jugées. Ce sont tous les rachetés vivants ou déjà morts lors de sa venue. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. Donc, nous tous, ses enfants, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et Romains, chapitre 14, verset 10. Celui qui croit au Fils est libre, il est vrai, à l'égard du jugement final et de la condamnation. Il est libre également de la condamnation, selon Saint Jean, chapitre 5, verset 24, et verset 10, non, et Hébreux, chapitre 10, voilà, Hébreux, chapitre 10, verset 14 et le verset 17. Donc, il n'y a en effet aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation si vous êtes sauvé, né de nouveau, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Romains 8, verset 1. Même pour les croyants, cependant, pour les croyants, il y a un jour du jugement. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 17. Ce jour du jugement mettra en lumière le degré de fidélité et la part de récompense des uns. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 14 et notez Colossiens chapitre 3 verset 24 et le préjudice subi par les autres. Je répète, il y a un jour du jugement qui mettra en lumière le degré de fidélité et la part de récompense des uns et le préjudice subi par les autres. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15 et 2e épître de Saint Jean chapitre 8. Il n'y est pas question de salut ou de perdition, mais il est question de récompense ou de blâme. Quatrièmement, nous avons la sévérité de son jugement, et cela est très sérieux. C'est le feu qui révélera l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. En liaison étroite avec le tribunal de Christ, l'apôtre Paul parle de la crainte du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 10 et 11. Et cela avec raison, car pour plusieurs, il apportera préjudice et perte. Oui, plusieurs seront couverts de honte à sa venue et verront toute l'œuvre de leur vie consumée. C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 14 et 15. Et deuxième épître de Saint Jean, chapitre 8, et la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Pour eux, et oui, pour eux, ils seront sauvés, d'accord, mais ils seront sauvés comme au travers du feu, comme quelqu'un qui échapperait à un incendie, sauvant ainsi tout juste sa vie. Amos, chapitre 4, verset 11, et Genèse, chapitre 19, verset 16 et 29. Rappelez-vous, Lot, on peut donc dire tel que Lot, qui a été sauvé tout juste. Tout juste. Quelle sera notre part? Eh bien, voyez-vous, cela me fait vraiment réfléchir. Ensuite, notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, manifeste qu'il nous sera donné non seulement selon nos bonnes œuvres, mais aussi selon nos mauvaises œuvres. Nous, c'est-à-dire nous tous les membres de l'Église, nous devrons tous être manifestés devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait par le moyen du corps, soit bien, soit mal. En Colossiens, chapitre 3, versets 24 et 25, l'apôtre, parlant des récompenses à venir, en rapport avec la vie journalière des membres de l'Église, s'exprime ainsi. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Comparé avec cela, Saint Luc, chapitre 19, verset 24, chapitre 12, verset 45 à 48. Ne laissons pas l'épée de l'esprit perdre de son tranchant. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Être manifesté devant le tribunal de Christ est une chose beaucoup plus sérieuse que nous le pensons généralement. La mention d'un gain ou d'une perte et impuissante à faire pleinement justice à elle seule, voilà tout le sérieux de cet aspect de l'enseignement néo-testamentaire. Il est vrai que nous ne pouvons comprendre comment se combineront en ce jour-là toute la gloire et toute la solennité. Ces réalités appartiennent déjà à ce qui est éternel, donc inaccessible aux perceptions et sentiments présents. Si l'Écriture sainte nous dépeint avec tant de sérieux le tribunal où nous devrons comparaître, c'est afin d'imprimer en nous, d'une manière profonde, la conscience de la nécessité d'une sainteté et d'une fidélité pratique, d'un service accompli dans le renoncement. Bien que le salut et son efficience soient des certitudes absolues, cette parole reste applicable. Elle est applicable. Et écoutez bien ce qu'elle dit, cette parole. De Philippiens, chapitre 2, verset 12, elle dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est sérieux, cela. Cinquièmement, nous avons le critérium. C'est le degré de fidélité. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5, et noté Saint Matthieu, chapitre 25, versets 21 et 23. Ce qui sera considéré, c'est notre vie toute entière. Oui, nos œuvres, selon les possibilités données à chacun, ce que nous aurons été, mais aussi ce que nous aurions pu devenir, nos actes, mais aussi nos omissions. Jacques, chapitre 4, verset 17. Ce qui sera considéré, c'est bien plus encore l'ouvrier que l'œuvre. La valeur, plus que le nombre d'œuvres, ce que nous serons efforcés d'atteindre, plus que ce qui aura été atteint. De nos possessions, seules compteront celles que nous aurons mises à son service. De nos dispositions, seules comptera l'amour désintéressé de nos œuvres, celles qui nous coûtent le plus, seront les mieux considérées. De nos péchés, il ne jugera pas à nouveau ceux que nous aurons jugés. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Il couvrira ceux que nous n'aurons pas caché. 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Mais, il dévoilera ce que nous aurons caché. Saint Luc, chapitre 12, verset 2. En toutes choses, il tiendra compte des éléments les plus intérieurs, des impulsions et des motifs les plus secrets. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, noté 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Hébreux chapitre 4 verset 13 et le psaume 139. Sixièmement, nous avons les faits. Le Seigneur est un juste juge, de sorte que chacun recevra sa juste rétribution. Celui qui aura construit avec du bois, du foin ou du chaume, son œuvre sera consumée. Pour ceux qui auront construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, leurs œuvres subsistera. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Ceux qui auront servi fidèlement seront grands dans le royaume des cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 19 et chapitre 25, verset 21. Ajoutez Saint Luc, chapitre 19, verset 17. Ceux qui auront semé pour la chair récolteront de leurs œuvres la corruption. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Ceux-ci sont purs, irréprochables. Philippe, chapitre 1, verset 10 et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Ils remporteront le prix. Philippiens 3, verset 14. Et cela, hélas, seront désapprouvés. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Et ils perdront la récompense. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15 et 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Ceux-ci auront de l'assurance au jour du jugement, selon la première épître de Saint Jean chapitre 4 verset 17. Et ceux-là ont pour part la honte. Premier épître de saint Jean, chapitre 2, verset 28. Donc, chacun recevra ainsi ce qui lui est dû. Hébreux chapitre 6, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5 et 2 Timothée chapitre 4, verset 8, sans considération ou acception de personne. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 17, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et Colossiens, chapitre 3, verset 24 et 25. Le salut dépend de la foi, la récompense est le fruit de la fidélité. Comme fils, nous recevrons sa vie. Comme serviteur, nous recevrons sa récompense. Voici, est-il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Dit Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Tout cela est très sérieux, très sérieux. Vous savez, je dois vous dire une chose. Il est 6h15 du matin et vous pensez bien qu'avec des problèmes de santé assez, disons, embarrassantes, s'il n'y avait pas, je crois que j'ai senti qu'il y avait un serviteur de Dieu avec sa chère épouse tendre, qui a dû prier pour moi parce que mon cœur, il n'allait pas très fort, sans compter tout le reste. Mais c'est donc miraculeux que je peux faire ce que je fais droit maintenant, à la seconde dont je vous parle. Eh bien, j'appelle cela miraculeux et je remercie le Seigneur. On ne peut jamais assez remercier notre Seigneur, Sauveur, Roi des Rois, celui qui nous a tirés de la fosse, dans mon cas c'est vrai. Sans lui, j'étais perdu pour l'éternité. Donc, chers amis, je répète, le salut dépend de la foi, la récompense est le fruit de la fidélité. Soyons tous, apprenons, je veux dire, apprenons à être fidèles, honnêtes, droits, sincères dans ce que nous faisons. Donc, comme fils et comme fille, hein, nous, vous, toi, tu recevras sa vie. Et comme serviteur, et je voudrais ajouter esclave, pourquoi pas, ça vaut la peine, nous recevrons sa récompense. Finalement, tous les croyants seront sauvés et brilleront bien qu'à des degrés divers, c'est vrai, resplendissant de splendeur et de gloire. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 42. Il y aura donc des vases étroits, d'autres larges, mais tous seront remplis. Ainsi, la mesure est la même pour tous. C'est la plénitude. Il y aura des degrés et des étapes dans la gloire. Saint Matthieu 25, versets 14 à 24, mais aucune différence dans la béatitude. Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Alors, chers amis, la couronne est réservée aux guerriers victorieux. Pour être victorieux, nous devons avoir du zèle pour le Seigneur, de la motivation. Ne croyez-vous pas que je pourrais aussi me lamenter, être morose, peut-être même un peu déprimé? Va savoir. Mais il y a quelqu'un qui me permet de ne pas l'être. Bien sûr qu'il y a ceux dans ce monde invisible qui voudraient nous écraser, mais il y a la victoire. Donc, si nous sommes des guerriers victorieux, nous aurons la couronne de justice. C'est encore pas moi qui le dis. Notez 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Je fais que répéter. Au coureur du stade, ce sera une couronne incorruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 27. Au fidèle jusqu'à la mort, cher ami, sois fidèle jusqu'à la mort. Je t'en prie. C'est la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2 verset 10 et Jacques chapitre 1 verset 12. Aux ouvriers désintéressés, nous pouvons être désintéressés. Restons humbles. C'est pas important que notre nom brille à quelque part. Et ce sera la couronne d'honneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18-19, et Philippiens, chapitre 4, verset 1. Au modèle du troupeau, oh, il y en aura. C'est la couronne de gloire. Il y en a qui seront des modèles du troupeau, de votre assemblée, de votre église. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 3 et 4. Et nous arrivons septièmement, nous avons le but du jugement. Eh bien, le but du jugement, c'est la gloire. La gloire. Il est dit à la fin de votre sainte Bible, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui toute la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Heureux donc ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9. Alors le grand jour est venu, en effet, ce grand jour est venu où Dieu a jugé l'armée des grands en haut et les rois de la terre, Ésaïe 24, verset 21, et où il lui a plu de donner le royaume aux petits troupeaux, Saint Luc, chapitre 12, verset 32. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Apocalypse 20, verset 4. Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Daniel, chapitre 7, verset 18 et 22. Et parce qu'ils forment un seul corps, l'individu ne sera pas glorifié avant la communauté. C'est ensemble qu'ils recevront leur portion de l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12. Ensemble, qu'ils sont un royaume de sacrificateurs et de rois. Apocalypse chapitre 1, verset 6 et chapitre 5, verset 10. Sur le plan de l'histoire, l'ensemble est plus que l'individu. Et c'est pourquoi celui-ci ne peut être rendu parfait que par une vie de communion avec la communauté rendue parfaite. Ça peut être aux Avanchets, ça peut être ailleurs. C'est la communauté, la communion avec la communauté qui est rendue parfaite. Gloire à Dieu. Et de là, l'attente de tous ceux qui dorment. Hébreux chapitre 11, verset 40 et Apocalypse chapitre 6, verset 10 et 11. L'âme, en effet, ne se revêt pas du corps de gloire immédiatement après la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, Apocalypse chapitre 6, verset 9 et Hébreux chapitre 12, verset 23. C'est ensemble que les morts en Christ et ceux qui vivront seront changés et revêtus lors de l'enlèvement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 à 4. Et vous pouvez ajouter 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Car le but n'est pas le seul salut de l'individu, mais la glorification de l'organisme tout entier, non les seules bénédictions individuelles, mais le royaume de Dieu. Saint Matthieu chapitre 6, verset 10. Aujourd'hui, le monde cosmique universel est sous le gouvernement de princes angéliques régionaux. Notez Daniel chapitre 10, verset 13 et 20. Demain, c'est la compagnie des saints glorifiés qui régnera avec Christ comme son chef sur les soleils et les mondes. Apocalypse 22, verset 5 et Hébreux chapitre 2, verset 5. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 et 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse chapitre 2, non, chapitre 3. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Heureux ses serviteurs, ses servantes, que le maître à son arrivée trouvera veillants, qui veilleront, prieront. Je vous le dis en vérité, il se scindera et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Saint Luc chapitre 12, verset 37. Exceptionnellement, cette étude, je la fais beaucoup plus courte que d'habitude, parce que la prochaine sera beaucoup plus longue. Ce sera l'ascension, pas seulement du vainqueur et son triomphe, mais nous parlerons de la personne de l'Antéchrist. Antichrist, on peut dire antéchrist ou antichrist. Et là, nous verrons la venue de l'antichrist. Ce sera une étude très importante et ça continue. Chers amis, Il m'arrive parfois, oh, vous savez, cela nécessite beaucoup de prières, et plus que cela, en plus, encore beaucoup d'autres choses. Donc, avant de terminer par notre prière, eh bien, je pense que nous pouvons tous, les uns et les autres, recevoir dans notre cœur et esprit, surtout si nous nous donnons la peine de bien méditer la sainte parole de Dieu, nous recevons des choses qui peuvent compléter ce que nous venons d'étudier ensemble, et c'est le Seigneur qui le donne. Alors le Seigneur nous montre ceci. Gardez-vous de disputer sur des sujets trop hauts et sur les jugements cachés de Dieu. Pourquoi l'un est abandonné tandis qu'un autre reçoit des grâces si abondantes? Pourquoi celui-ci n'a que des afflictions et celui-là est comblé d'honneur? Tout cela est au-dessus de l'esprit de l'homme. Et nulle raison ne peut, quels que soient ses efforts, pénétrer les jugements divins. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées, ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, répondez par ces paroles du prophète : vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. Et encore, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Il faut craindre ces jugements et non trop les approfondir, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ne disputez pas non plus des mérites des saints. Ne recherchez point si celui-ci est plus saint que cet autre, ni quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Ces recherches produisent souvent des différends et des contestations inutiles. Elles nourrissent l'orgueil et la vaine gloire, d'où naissent des jalousies et des dissensions, celui-ci préférant tel saint, c'est-à-dire tel serviteur, celui-là tel autre, et voulant qu'il soit plus élevé. L'examen de pareilles questions, loin d'apporter aucun fruit, déplaît au Seigneur, car il n'est point un Dieu de dissensions, mais de paix, et cette paix consiste plus à s'humilier sincèrement qu'à s'élever. Quelques-uns ont un zèle plus ardent, une affection plus vive, et je pense à la discipline pour les choses spirituelles et pour servir le Seigneur. Mais cette affection vient parfois de l'homme plutôt que de Dieu. Le Seigneur connaît les mérites de chacun. Il les a prévenus de ses plus douces bénédictions. Le Seigneur t'a connu et aimé avant tous les siècles. Il les a choisis au milieu du monde, et ce ne sont pas ceux qui l'ont choisi les premiers. Ce n'est pas eux. Non, ce n'est pas eux qui l'ont choisi les premiers. Il les a appelés par sa grâce. Oui, il les a attirés par sa miséricorde et conduits à travers des tentations diverses. Le Seigneur a répandu en eux l'ineffable consolation. Il leur a donné de persévérer et il a couronné leur patience. Jésus-Christ connaît le premier et le dernier et il les embrasse tous dans son amour immense. C'est Jésus-Christ qu'on doit louer. C'est lui qui vous a sauvés et qu'on doit bénir au-dessus de tous et honorer en chacun de ceux qu'il a ainsi élevés dans la gloire et sauvés sans aucun mérite précédent de leur part. Le Seigneur nous dit, « Celui qui méprise le plus petit des miens n'honore pas le plus grand parce que j'ai fait le petit et le grand. Et quiconque rabaisse quelqu'un de ses saints rabaisse le Seigneur lui-même. Tous ne sont qu'un par le lien de la charité. Ils n'ont tous qu'un même sentiment, une même volonté, et sont tous unis par le même amour. Et ce qui est plus parfait encore, ils m'aiment plus qu'ils ne s'aiment, plus que tout leur mérite. Ravis au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leur propre amour, ils s'y plongent et se perdent dans le mien et s'y reposent délicieusement. Rien ne saurait partager leur cœur, ni le détourner vers un autre objet, parce que remplis de la vérité éternelle, ils brûlent d'une charité qui ne peut s'éteindre. Que les hommes ensevelis dans la chair et ses convoitises, les hommes qui ne savent aimer que les joies excessives cessent donc de discourir sur l'état des saints, des serviteurs, des servantes. Ils retranchent et ils ajoutent suivant leur inclination et non pas selon que la règle, la vérité éternelle leur dicte. En plusieurs, c'est ignorance, et surtout en ceux qui, peu éclairés de la lumière divine, aiment rarement quelqu'un d'un amour parfait et purement spirituel. Une inclination naturelle et une affection toute humaine les attirent vers ceci ou cela, et ils transportent dans le ciel les sentiments de la terre. Mais il y a une distance infinie entre les pensées des hommes imparfaits et ce que la lumière d'en haut découvre à ceux qu'elle éclaire. Gardez-vous donc de raisonner curieusement sur ces choses qui passent votre intelligence. Travaillez plutôt avec ardeur à obtenir une place, fût-ce même la dernière, dans le royaume de Dieu. Et quand quelqu'un saurait qui des saints est le plus parfait et le plus grand dans le royaume céleste, que lui servirait cette connaissance s'il n'en tirait un nouveau motif de s'humilier devant le Seigneur et de le louer davantage? Celui qui pense à la grandeur de ses péchés, à son peu de vertu, qui considère combien il est éloigné de la perfection des saints, se rend plus agréable à Dieu que celui qui dispute sur le degré plus ou moins élevé de leur gloire. Ils sont heureux, contents, qu'avons-nous besoin d'en savoir plus? Et n'est-ce pas assez pour réprimer tous nos vains discours. Ils ne se glorifient point de leur mérite parce qu'ils ne s'attribuent rien de bon, mais qu'ils attribuent tout au Seigneur, qui leur a tout donné par une charité infinie. Ils sont remplis d'un si grand amour de la divinité, d'une joie si surabondante, que comme il ne manque rien à leur gloire, rien ne peut manquer à leur félicité. Puis ils sont élevés dans la gloire. Oui, plus ils sont élevés dans la gloire, plus ils sont humbles en eux-mêmes, et leur humilité les rend plus chers et les unit plus étroitement au Seigneur. Et c'est pourquoi il est écrit qu'ils déposaient leur couronne au pied du trône de Dieu, qu'ils se prosternaient devant l'agneau et qu'ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles. Plusieurs recherchent qui est le premier dans le royaume de Dieu, lesquels ignorent s'ils seront dignes d'être comptés parmi les derniers. C'est quelque chose de grand d'être le plus petit dans le ciel, où tous sont grands, parce que tous seront appelés et seront en effet les enfants de Dieu. Le moindre des élus sera comme le chef d'un peuple nombreux, tandis que le pécheur, après une longue vie, ne trouvera que la mort. Ainsi, quand les disciples demandèrent qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, ils entendirent cette réponse. « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Malheur donc à ceux qui dédaignent de s'abaisser avec les petits, parce que la porte du ciel est basse et qu'ils n'y pourront passer. Malheur aussi aux riches qui ont ici leur consolation, parce que quand les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, ils demeureront dehors poussant des hurlements. Humbles, réjouissez-vous, pauvres, tressaillez d'allégresse, parce que le royaume de Dieu est à vous. Si cependant vous marchez dans la vérité. » Et maintenant, chers amis, si vous le voulez bien, nous terminerons ensemble par la prière. Comme je vous ai dit, l'étude que nous avons eue est très très courte, exceptionnellement. Mais les prochaines seront beaucoup plus importantes. Prions. Dieu puissant et juste, encore aujourd'hui, par ta volonté paternelle, tu as daigné nous bénir et nous protéger. Puissions-nous apprécier l'étendue de tes miséricordes et ne point y demeurer insensibles. Aide-nous, Seigneur, à résister à toute influence qui tendrait à nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous appuyer fermement sur ta sainte parole, afin qu'elle soit notre guide et notre lumière à chaque instant de notre vie. Que dans ton livre divin, nous puissions chercher aussi la parole des prophètes, afin de nous y attacher et de puiser en elle des espérances qui soutiennent notre courage. Sachant que les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé et que des prophéties auront tout leur accomplissement, nous devons chercher dans les promesses qu'elles contiennent l'assurance de ta fidélité et de tes compassions envers nous. Un grand nombre de ces prophéties divines ont déjà été réalisées, de manière à confondre le doute et l'incrédulité même, l'histoire des nations, celle en particulier du peuple que tu avais choisi et comblé de tes soins, ô Seigneur. La ruine et l'asservissement de ta ville sainte, l'anéantissement total des puissances orgueilleuses et dominatrices qui ont disparu de la surface du globe, balayées par le souffle de ta colère, la miraculeuse extension du christianisme, quel sujet, grand Dieu, d'admirer tes voies à l'égard des hommes, d'adorer des immuables décrets et de reconnaître qu'ainsi que tu l'as déclaré dans ta sainte parole, le ciel et la terre passeront en effet, mais cette sainte parole subsistera toujours et qu'il n'y aura rien en elle qui ne s'accomplisse jusqu'à un seul iota et à un seul trait de lettre. Être immortel, sachant porter nos regards au-delà du court espace de cette vie et contempler par la foi la réalisation des promesses et des déclarations du Seigneur. Ô Dieu, aide-nous par ton Saint-Esprit à nous confier en toi. Exauce nos humbles prières. Garde-nous par ta toute-puissance et ta puissante grâce et que ton saint nom soit béni dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Et chers amis, je voudrais juste vous dire que, vous savez, tout cela, ça ne va pas tout seul. Ça ne me vient pas tout cuit dans la bouche. Je dois passer des heures et des heures à préparer une telle étude. Mais il y a quelque chose que le Seigneur me donne à vous dire pour terminer. Souvent, je vous dis pour terminer que le Seigneur vous bénisse parce qu'il vous aime. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que je vous dise quelque chose de très sérieux, bien que tout est sérieux. En effet, on dit partout que Dieu aime tout le monde. C'est un papa gâteau. Ça, c'est nous. C'est nous qui déformons habilement ce que la Bible dit. Il est vrai que Jésus-Christ est mort pour tout un chacun. Mais un peu plus loin, la Sainte Bible nous dit que Dieu aime tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé son salut n'obtiendront jamais la rédemption selon saint Matthieu chapitre 7 verset 7. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8 verset 1. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pas moi qui le dis. C'est saint Jean, chapitre 3, verset 36. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Saint Jean 3, verset 3. Dans saint Matthieu 18, verset 3, il est dit « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». La Bible dit « Jésus-Christ est le chemin ». Personne ne vient au Père, à Dieu, que par moi, par Jésus-Christ. Saint Jean 14, verset 6. Tout cela est très sérieux et donc j'avais besoin de vous le mentionner encore une fois. À demain, Dieu voulant, pour la suite très, très sérieuse de ces études. Au revoir, chers amis. Et je vais donc prendre le petit déjeuner et ensuite de nouveau étudier sérieusement pour que tout soit coordonné et sérieux, parce que je dois rendre des comptes un jour de ce que je vous dis. Et ces études, je dois les prendre très au sérieux. Comme je le dis, j'ai des comptes à rendre un jour devant Dieu, et je ne peux pas me permettre de vous induire en erreur. À bientôt donc à nouveau, demain matin, Dieu voulant. Au revoir.